VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du lundi 9 août 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, une cinquantaine de civils ont été tués dimanche dans le nord du Mali, près de la frontière avec le Niger. Les attaques ont été imputées à des djihadistes. L'Afrique australe déploie une force militaire régionale au Mozambique. La SANIM pourrait compter à terme jusqu'à 3000 militaires. Réchauffement climatique, l'ONU tire la sonnette d'alarme et prévient d'une menace sans précédent pour l'humanité, déjà frappée par des canicules et inondations en série. Ici aux États-Unis, le plan des infrastructures de 1200 milliards de dollars défendu par le président Joe Biden en passe d'être adopté au Sénat américain. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Mali, une attaque terroriste dans des localités de la région de Gao a fait une cinquantaine de civils tués. Le point avec notre correspondant Mohamed Danyoko.
Karou, Wataguna, Dirga et Deoutegef sont les localités de la région de Gao dans lesquelles des hommes armés non identifiés s'en sont pris à des populations civiles, faisant plus de 40 morts. Les terroristes qui ont perpétré ces attaques hier dimanche étaient, selon des populations, à pied et à moto, tirant sur tout ce qui bouge. Certains civils ont été surpris revenant de leur champ et d'autres assis chez eux. Si l'attaque n'a pas encore été revendiquée, beaucoup pointent du doigt l'État islamique au Grand Sahara. S'agissant des causes, des témoins évoquent une représailles des terroristes qui accusent la population de ces localités de fournir des informations aux forces de défense maliennes. Vendredi, un véhicule des forces armées en patrouille a sauté sur un engin explosif à Mourdia, dans la région de Nara. Participant ce lundi matin à l'atelier sur la présentation du nouveau mandat de l'aménagement, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, a rappelé que cette attaque survenue dans la région de Gao démontre combien le mal est loin d'être vaincu et qu'il faut une synergie d'action avec les forces étrangères pour venir à bout. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Au moins 12 soldats burkinabés ont été tués et 8 blessés dimanche lors d'une attaque de djihadistes présumés dans le nord-ouest du Burkina Faso, près de la frontière du Mali. L'embuscade a eu lieu à la hauteur du village de Dunkoun, commune de Touéni, dans la province de Sourou, précise un communiqué du gouvernement burkinabé. François Compaoré, frère cadet du président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré estime que sa mise en cause dans l'assassinat en 1998 d'un journaliste d'investigation, Norbert Zongo, n'était qu'un prétexte de mise à l'écart politique programmée. François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré, chassé par la rue en octobre 2014 après 27 ans à la tête du Burkina Faso, avait été arrêté à l'aéroport parisien de Roissy en octobre 2017 en exécution d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de Ouagadougou. La Cour européenne des droits de l'homme a accordé vendredi à François Compaoré, qui vit en France, une mesure provisoire de suspension de son extradition qui avait été validée par les autorités politiques et judiciaires françaises. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, fondateur du FPI, le Front populaire ivoirien, miné par des divisions, propose la création d'un nouveau parti politique. C'est ce qu'indique un communiqué du FPI publié à l'issue d'une réunion de ses instances dirigeantes. M. Gbagbo a dénoncé pendant cette réunion le comportement de son ancien premier ministre Pascal Affi N'Guessan, président du FPI d'illégal, avec qui il n'entend pas s'engager dans une bataille juridique et propose donc la création d'un nouvel instrument de lutte conforme à notre idéologie et nos ambitions, indique le communiqué. Les grandes villes du sud-est du Nigeria étaient quasiment désertes ce lundi, après l'appel lancé par un groupe séparatiste à une journée ville morte pour protester contre l'arrestation de son chef, Nnamdi Kanu. Owerri, la capitale de l'état de Imo, était désertée par les habitants, tandis que les routes habituellement embouteillées étaient vides et les marchés et boutiques quasiment tous fermés selon des habitants. Le mouvement des peuples indigènes du Biafra, IPOB, groupe interdit par les autorités qui prônent la sécession du sud-est du Nigeria, peuplé en majorité de membres de l'ethnie Igbo, appelle les commerçants à fermer chaque lundi leur boutique pour exiger la libération de son chef, Nnamdi Kanu. Une épidémie de choléra a tué 12 personnes au Niger, sur plus de 200 malades recensés dans 3 régions proches du Nigeria, annonce aujourd'hui le ministère nigérien de la Santé. Les régions de Zinder, Maradi et Dosso sont touchées depuis quelques semaines par le choléra en lien avec une épidémie de cette maladie qui sévit depuis plusieurs mois dans des États fédérés du Nigeria voisin, explique le ministre de la Santé. L'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement qui regroupe 7 pays de l'Est africain, convoque une réunion d'urgence lundi sur le Soudan du Sud, où de récents combats entre factions du parti du vice-président font redouter un retour des violences. Des affrontements meurtriers ont éclaté samedi dans la région du Haut-Nil entre les factions rivales du SPA-AIO, la branche armée du parti du vice-président Riek Machar, quelques jours après l'annonce contestée de son éviction en tant que président des deux entités. Les deux camps se rejettent la responsabilité de ces combats qui ont fait au moins une trentaine de morts. Lancement officiel aujourd'hui de la mission militaire de la SADC au Mozambique. Objectif, aider ce pays à lutter contre les insurgés djihadistes et reprendre le contrôle de la province du Cabo Delgado, riche en gaz. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Le président mozambicain Filipe Nyusi et son homologue botswanais Mokwetsi Masisi ont inauguré la mission de la Communauté de développement d'Afrique australe au Mozambique, SANIM, lors d'une cérémonie à Pemba, la capitale de cette province située dans le nord du Mozambique. Nous réaffirmons notre engagement commun à lutter contre l'extrémisme avec les forces rwandaises, a affirmé Filipe Nyusi. Il a rappelé le succès de la mission du Rwanda et des forces mozambicaines quelques semaines seulement après l'arrivée d'un millier de soldats rwandais au Mozambique. Soutenus par les troupes rwandaises, les forces mozambicaines ont annoncé dimanche avoir chassé les djihadistes de Mocimboa de Praia, la ville portuaire devenue depuis un an le bastion des djihadistes locaux affiliés au groupe État islamique. Aucune précision n'a été apportée de sources officielles sur la taille du contingent de la SANI ou sur son calendrier de déploiement. Mais des sources proches des forces armées sud-africaines affirment à l'AFP que la SANIM pourrait compter jusqu'à 3000 militaires.
Un prêtre a été tué aujourd'hui dans une communauté religieuse de l'ouest de la France par un homme qui y était hébergé, un ressortissant rwandais qui avait avoué en juillet 2020 l'incendie de la cathédrale de Nantes et qui s'est dénoncé dans la matinée. Le corps du prêtre âgé de 60 ans a été retrouvé dans les parties communes de la communauté des Montfortins à Saint-Laurent-sur-Sèvre et le suspect a été placé en garde à vue. Un premier avion transportant des touristes russes depuis Moscou a atterri aujourd'hui à Hurghada, dans le sud-est de l'Égypte, près de 6 ans après l'interdiction des vols entre la capitale russe et les stations balnéaires égyptiennes à la suite d'un attentat. Moscou avait décrété une interdiction des vols directs vers l'Égypte après un attentat à la bombe qui avait fait 224 morts en octobre 2015 en visant un charter russe au décollage de Sharm el-Sheikh dans la péninsule du Sinaï.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le réchauffement de la planète Terre s'accélère et pourrait atteindre le seuil de plus 1,5 degrés Celsius autour de 2030, soit 10 ans plus tôt qu'estimé, avertissent les experts climat de l'ONU dans un rapport publié aujourd'hui, à moins de 3 mois de la conférence climat COP26 en Grande-Bretagne. Cette accélération pourrait menacer l'humanité de nouveaux désastres sans précédent. Les précisions de Nani Talani.
Le rapport prévient que même à plus 1,5%, les canicules, inondations et autres événements extrêmes vont augmenter de manière sans précédent en matière d'ampleur, de fréquence et d'époque de l'année. Les humains sont indiscutablement responsables des dérèglements climatiques. S'ils veulent en limiter les dégâts, ils doivent réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, auquel cas la température poursuivrait sa hausse d'ici 2050. Face à cet avenir apocalyptique, les appels à agir se multiplient. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le rapport est une véritable alerte rouge pour l'humanité et doit sonner le glas des énergies fossiles qui détruisent la planète. Il plaide pour que les subventions aillent aux énergies renouvelables. Ce moment nécessite que les dirigeants mondiaux, le secteur privé et les individus agissent ensemble avec urgence et fassent tout ce qui est nécessaire pour protéger notre planète et notre avenir au cours de cette décennie et au-delà, avance le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
Ici aux États-Unis, rare accord entre démocrates et républicains au Sénat. Le vaste plan d'investissement pour moderniser les infrastructures américaines, défendu par le président Joe Biden, a surmonté dimanche de nouveaux obstacles au Sénat américain qui pourraient finalement voter pour son adoption. Le point avec Rosine Munizero.
Ce projet historique, selon le président américain, prévoit 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales dans les routes, les ponts, les transports, mais aussi dans l'Internet à haut débit et pour lutter contre le changement climatique. S'il ne fait plus de doute que ce projet sera adopté par le Sénat, son avenir est plus incertain à la Chambre des représentants, où des tiraillements entre l'aile gauche et les centristes ont émergé au sein de la courte majorité démocrate. Les services du budget du Congrès estiment que ce plan ajouterait 256 milliards de dollars au déficit entre 2021 et 2031. Un impact dont s'inquiètent plusieurs républicains opposés au projet. Dimanche soir, le projet de loi a très largement surmonté plusieurs votes de procédure au Sénat où les démocrates disposant d'une infime majorité ont été rejoints par plus d'un tiers des républicains. La suspense demeure sur l'heure du vote final mardi matin ou dès les prochaines heures lundi si les sénateurs parviennent à un accord.
À présent, la minute écho avec John Lindon.
Au Cameroun, le déficit commercial a continué de se creuser au cours des trois dernières années, passant, selon Financial Afrique, de 777 milliards de francs CFA en 2018 à 992 milliards de francs CFA en 2019, soit une aggravation de 4,4% du produit intérieur brut. Et d'après les chiffres publiés par le Comité technique national de balance des paiements, le déficit provisoire pour 2020 devrait être de 872 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, en Guinée-Bissau et après une contraction estimée à 1,4% en 2020, le produit intérieur brut devrait progresser de 3,3% en 2021, selon les données communiquées par le Fonds monétaire international. Cette reprise est favorisée, entre autres, par la hausse des exportations de noix de cajou, à la levée progressive des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19 et à une situation politique plus stable. Les vaccins anti-COVID-19 déjà approuvés ont rapporté des milliards d'euros aux groupes pharmaceutiques qui les produisent selon les résultats financiers disponibles publiés lundi. Pfizer récolte ainsi 10,8 milliards de dollars au premier semestre 2021. BioNTech enregistre 7,3 milliards d'euros pour la même période. Moderna s'en tire avec 5,9 milliards de dollars. Johnson & Johnson 2,5 milliards de dollars. Et 1,17 milliard de dollars pour AstraZeneca.
Place maintenant au sport avec Nani Talani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. En football, le technicien congolais Florent Ibengué quitte son poste de sélectionneur de l'équipe nationale quelques semaines après son départ de l'AS Vita Club. Le nouveau coach de la RS Berkane est contraint de mettre fin à son aventure avec les Léopards A compte tenu de son contrat avec les Marocains. Quand j'étais à Vita Club, mon contrat le permettait. Ici, mon contrat ne le permet pas. En plus, je n'ai plus la possibilité de suivre le championnat congolais. Même si mon contrat le permettait, je ne pouvais pas, a déclaré Florent Ibenga sur Top Congo, cité par Africa Top Spot. Vainqueur du championnat d'Afrique des Nations en 2016 au Rwanda, les Léopards A et Florent Ibengué se sont arrêtés en quart de finale de la dernière édition au Cameroun. Le gardien de la sélection du Mali, Diggy Diarra, rejoint Young Africans, le vice-champion de Tanzanie. Il a effectué toute sa carrière avec le Stade malien et va connaître à 26 ans sa première expérience à l'étranger. L'international sénégalais du club espagnol du Real Betis, Youssouf Sabali, va rater le début de saison qui commence ce 13 août pour une blessure qu'il s'est faite lors du match amical face à la Roma le samedi dernier. Les premiers tests médicaux font état d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche. Enfin, pour clôturer cette page sportive, des dizaines de supporters continuent à faire le pied de grue devant le petit aéroport de la région parisienne pour accueillir la superstar Lionel Messi qui est attendu au Paris Saint-Germain après le départ brutal de l'Argentin de son club de toujours, le FC Barcelone. Avant la signature du contrat à Paris, la Pulga devra d'abord passer sa visite médicale. Dimanche, dans les entrailles du Camp Nou, où il a écrit sa légende, Messi, en larmes, a clamé son amour pour le club où il est arrivé à l'âge de 13 ans. « Je n'avais jamais imaginé mes adieux, car la vérité est que je n'y pensais pas, a-t-il déclaré en révélant qu'il avait proposé de réduire son salaire de moitié pour pouvoir rester. Mais le Barça a renoncé à prolonger son énorme contrat, expiré en juin dernier, qui faisait planer un risque trop élevé sur ses finances exsangues.
Page des sports signée Nani Talani. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la capitale Kinshasa sort de la zone rouge avec une baisse des contaminations sur l'ensemble du pays enregistrée ces trois dernières semaines selon les statistiques de l'Institut national de recherche biomédicale. Le gouvernement congolais envisage de revoir les 19 mesures prises pour éradiquer la troisième vague de COVID-19. Patrick Lupika, notre correspondant en RDC, nous en dit plus.
Les nouvelles sont de plus en plus rassurantes. Les autorités RD congolaises notent une baisse sensible de cas de la COVID-19. Les statistiques placent désormais la capitale Kinshasa dans la zone verte. Des progrès qui rassurent la population. Docteur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte COVID-19 en RDC.
Kinshasa, vraiment, la baisse est là. À Kinshasa, la troisième vague est en régression constante. Nous pouvons dire donc que la troisième vague est derrière nous. Mais nous devons être vigilants, nous préparer à recevoir le vaccin, à nous faire vacciner dès que le pays aura reçu donc le vaccin qu'on attend. Ceci est très important si nous voulons éviter qu'il y ait une quatrième vague.
L'urgence sociale qui s'impose pousse le gouvernement à revoir les 19 mesures prises pour freiner le virus, entre autres la rouverture des discothèques, des terrasses, vente de produits des premières nécessités dans certains endroits publics ou encore la suppression du couvre-feu. Docteur Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention.
Il était important de revoir toutes les mesures qui ont été prises. Vous devez savoir que nous faisons face à une troisième vague de la pandémie COVID-19 depuis le 13 mai de cette année. Le nombre des cas avait fortement augmenté et raison pour laquelle le gouvernement de la République avait pris des mesures pour diminuer la circulation des personnes afin de diminuer la circulation de ce virus. De lors que nous avons constaté qu'il y a une baisse, il était important de voir qu'est-ce qu'il faut faire dans les jours à venir. Nous avons remis ce rapport au chef du gouvernement qui va échanger avec le chef de l'État afin que des mesures idoines soient prises. À ce jour, notre pays évolue dans le sens de la surveillance de la pandémie COVID-19 et cela se fait efficacement.
Il n'est pas question de crier victoire très vite. Il faut garder un œil sur cette troisième vague qui prend une vitesse de croisière dans plusieurs provinces. Docteur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum.
26 provinces sur 26 sont maintenant touchées par la pandémie. Le Nord Kivu avec 9,5%, le Haut-Katanga avec 6,3%, le Congo central avec 5,5% et le Sud Kivu avec 3,4%. Ce sont là donc les provinces les plus affectées.
La RDC a un taux de létalité de 2,2% et parmi les plus faibles dans la région OMS Afrique. Kinshasa, Patrick Lupika, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Bénin, de nombreux jeunes restent exposés au sous-emploi, estimé à 72%, selon un récent rapport au pays de la Commission économique pour l'Afrique, CEA. L'entrepreneuriat s'impose comme le moyen pouvant aider à renverser la tendance, même si le chemin paraît jonché de difficultés. Comment les jeunes béninois arrivent-ils à faire face au chômage et à l'entrepreneuriat? Élément de réponse avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Le Bénin dispose de plus de 2 millions de chômeurs selon les récentes données de l'INSAE, l'Institut national pour la statistique et l'analyse économique. Même avec les diplômes en poche, il devient difficile de trouver un poste adapté. Beaucoup sont devenus conducteurs de taxi-moto avec le master ou la maîtrise. Elle a un master mais peine à trouver un emploi à la taille de ses compétences.
Vraiment, le recrutement au Bénin, c'est pas du tout encourageant. On a le diplôme, mais quand tu n'as pas des moyens, quand tu n'as pas des connaissances, tu ne peux pas avoir d'emploi au Bénin.
La question du chômage fait partie des points essentiels sur lesquels Patrice Talon a promis apporter une solution définitive. Mais les jeunes continuent de penser qu'il y a plus de théorie que de pratique dans la lutte contre le chômage au Bénin. En attendant d'avoir une réponse favorable aux nombreux dossiers qu'il a déposés, Edgar est conducteur de taxi-moto.
Rien n'a encore changé. C'est toujours resté figé et rien n'a encore bougé. Les jeunes continuent toujours d'attendre que le nouveau gouvernement fasse quelque chose en leur faveur. Mais il reste encore du pain sous la planche, comme on le dit.
Face à l'incertitude, l'auto-entrepreneuriat devient la solution inévitable. Beaucoup de jeunes sortent aujourd'hui de l'université avec une telle détermination, même s'ils n'ont aucune idée de comment financer leur projet.
C'est auto-employé, on ne peut pas attendre l'État. L'État ne veut pas réagir.
Pour ne pas tomber dans le chômage, d'ici que je suis en train d'étudier, je dois au moins faire quelque chose pour le moment, même si c'est vendre quelque chose en attendant. Je vais faire ça d'abord.
Jean-Philippe Oussou s'est lancé dans le lavage des voitures. Pour lui, il fallait faire quelque chose au lieu d'attendre que l'État s'en charge.
Et aujourd'hui, rentrer en Afrique, c'est surtout la création de jobs, la création de valeur ajoutée et prouver que nous, Africains, nous sommes capables de faire des choses.
Mabel Adekambi est l'une de ces Béninoises qui a su s'imposer dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle est la promotrice d'une marque de liqueur qui s'arrache aujourd'hui sur le marché. C'est le choix qui s'est imposé à elle après ses études en France.
Quand on arrive au Bénin, on se rend compte que tout est à faire. Le bouche à oreille a tellement bien fonctionné que je suis surprise qu'un produit à la base fait pour être dégusté à la maison entre amis se transforme en une entreprise aujourd'hui.
Même avec une bonne stratégie, d'autres hésitent à faire le saut dans l'inconnu sans un minimum de capital, explique Robin Ngoloyi, chef de ligne devenu pisciculteur.
Pour moi, il ne faut pas de grands moyens pour faire de grandes choses. Il suffit forcément que vous ayez une idée claire de votre destination. À petit coût, vous pouvez vous y mettre à la chose et quitte à après passer dans une logique de réinvestissement et aller beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas de naître grand, mais il s'agit plutôt de commencer petit et de devenir grand.
L'État est conscient du poids de l'entrepreneuriat dans la réduction du chômage au Bénin et s'implique avec le concours de l'ambassade des États-Unis au Bénin dans le financement des jeunes à travers divers programmes. De nombreux jeunes en sont sortis outillés et aguerris. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Comme chaque année à l'occasion de la fête d'indépendance, les ressortissants de la Côte d'Ivoire vivant dans la région métropolitaine de Washington, D.C. ont pris d'assaut le centre de la ville de Silver Spring pour célébrer ensemble 61 années d'indépendance. Comme si vous y étiez, le reportage d'Arzuma Compaoré.
C'est dans une ambiance qui leur est bien connue que les Ivoiriens du Maryland, de la Virginie et de Washington D.C. se sont rassemblés hier dans le centre-ville de Silver Spring à l'occasion de la 12e édition du Festival culturel et économique ivoirien. Comme la plupart des festivals l'an dernier, il a dû être annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Mais cette année, malgré les difficultés, les organisateurs ont tenu à redonner vie à ce rendez-vous tant attendu par les fils et les filles de la Lagune Ébriée vivant dans la région. Pepita Koulibaly Kragbe est la présidente de l'ONG La Main Tendue qui organise le festival.
On n'a eu que 2 mois pour faire la publicité. Néanmoins, comme les gens connaissent notre crédibilité, comme les gens savent que nous sommes toujours là pour apporter de l'ambiance, vendre notre culture et présenter tous nos vendeurs ici qui ont pris des stands pour qu'ils sortent, pour qu'ils puissent vendre leurs marchandises, pour qu'ils puissent se faire des affaires. Nous voulions donner et faire apprendre aussi à la communauté américaine que nous sommes un pays et une Afrique vraiment qui aime l'unité, qui aime la réconciliation, qui apprécie le fait même que nous habitons ici et l'opportunité qui nous est donnée.
Comme à l'accoutumée, les participants au festival sont venus des 4 coins des États-Unis et de la vie générale. C'est une célébration qui a fait du bien. Renée-Louise Ngouan est l'une des participantes.
Très heureuse de participer à un festival comme celui-ci aux États-Unis. Je trouve que ça permet de promouvoir mon pays. Ça me permet aussi, puisque je ne suis pas en Côte d'Ivoire pour célébrer avec tout le monde, de me sentir proche de mon pays et aussi faire découvrir la culture à d'autres personnes.
Ben Bakayoko, un participant.
Ce qui me plaît, c'est que nous nous amusons. Nous nous retrouvons et nous célébrons dans la joie ce jour
symbolique et important de la vie de la Côte d'Ivoire, de notre pays.
Le pasteur Serge Adé, un participant.
La convivialité et puis tous les stands qui sont là qui montrent la culture, non seulement ivoirienne et africaine, mais surtout la nourriture.
Au-delà de la fête d'indépendance, le retour du festival est aussi un symbole de résilience et d'un besoin profond de liberté. Séni Compaoré, un participant.
Ça se voit, on a été confinés pendant pratiquement 2 ans. Donc maintenant qu'on a l'opportunité, l'occasion, ben bon, on a appris quand même à apprécier la liberté qu'on avait avant Covid, parce que bon, d'une façon ou d'une autre, cette liberté-là a été restreinte. Dès qu'on a eu l'occasion, bon, allez, bon, on est sorti quoi.
Une liberté retrouvée accompagnée d'une joie qui d'ailleurs pouvait se lire sur le visage des uns et des autres. Mais pour l'ONG La Main Tendue, la situation politique en Côte d'Ivoire reste une préoccupation qui l'a poussée à choisir le thème de cette année.
Nous avons emboîté le pas en mettant le thème de cette année sur la réconciliation, la cohésion entre tous les Ivoiriens. Le pays a prouvé cela. Le président de la République a tendu la main à tous ses autres homologues, les premiers présidents, à se donner la main pour que tout le pays soit unifié, pour que tout le pays soit en harmonie.
Avant de se quitter, les participants au festival se sont donné rendez-vous en août 2022 pour à nouveau célébrer ensemble l'indépendance du pays de Félix Houphouët-Boigny.
Aux États-Unis, les autorités sanitaires se disent toujours préoccupées par la propagation du variant Delta du coronavirus, malgré des statistiques récentes qui montrent que 70% des adultes américains sont désormais partiellement vaccinés contre le COVID-19, la maladie causée par le virus. Arash Arabasadi de la VOA nous en dit plus avec le récit de Jacques Aristide.
En voiture, des personnes font la queue dans un lieu de dépistage du gouvernement fédéral. C'était la semaine dernière à Miami en Floride. Le journal Miami Herald rapporte que bien que les cas de Covid-19 aient augmenté dans tous les groupes d'âge de l'État, le plus grand bond a été répertorié chez les enfants de moins de 12 ans. Les infections sont à leur plus haut niveau depuis 6 mois et selon la Maison-Blanche, la Floride fait partie des 7 États représentant la moitié de tous les nouveaux cas. Le docteur Francis Collins est directeur des National Institutes of Health, ou NIH. Dans un entretien à This Week de la chaîne ABC, il affirme que la dernière vague était évitable.
Nous ne serions pas là où nous sommes en ce moment avec cette augmentation du variant Delta si nous avions été plus efficaces pour amener tout le monde à profiter de ces vaccinations. Et maintenant, nous payons un prix terrible.
Lors d'une récente conférence de presse, le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, a minimisé les risques.
Je pense qu'il est important de le souligner car évidemment les médias font de l'hystérie. Vous essayez de faire peur, vous essayez de faire ce genre de choses et quand vous parlez d'hospitalisation, nos hôpitaux fonctionnent normalement.
D'après le docteur Collins, la vaccination demeure la meilleure voie à suivre alors que les États-Unis sont confrontés à une nouvelle tendance alarmante due au variant Delta.
Ce sont les jeunes qui sont maintenant touchés, y compris les enfants. Le plus grand nombre d'enfants en ce jour, durant toute la pandémie, est en ce moment à l'hôpital. 1450 enfants à l'hôpital à cause du COVID-19. Et bien sûr, comme ils ont moins de 12 ans, beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas être vaccinés, mais le reste d'entre nous, qui avons plus de 12 ans, auraient pu faire un meilleur travail.
Et tandis que les cas continuent de grimper à travers le pays, notamment en Floride, le gouverneur DeSantis s'engage à maintenir le cap de sa politique.
En termes de fermeture, nous ne fermons pas. Nous allons ouvrir les écoles. Nous protégeons le travail de chaque habitant de Floride. Nous protégeons les petites entreprises. Ces interventions ont échoué à maintes reprises tout au long de cette pandémie, non seulement aux États-Unis, mais à l'étranger.
Le président Joe Biden, qui est vu ici se rendant à l'église, a récemment déclaré que les employés fédéraux seraient appelés à signer des formulaires confirmant le statut vaccinal ou à subir des tests Covid hebdomadaires. L'administration doit bientôt publier des directives touchant les attestations vaccinales pour les étrangers se rendant aux États-Unis.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.